On est près de la gare Cornavin à Genève avec un vaudois, Claude Bechtold. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Avec plaisir, on a hâte de vous entendre parler de Riverboom que vous avez concocté après avoir redécouvert des cassettes qui sont réapparues 20 ans plus tard. Vous aviez fait ces cassettes, ces films, et en 2002 avec deux compagnons, un compagnonnage de voyage assez imprévu, insolite. En fait, il y avait Serge Michel, le journaliste, qui partait faire un reportage pour le Figaro avec le photographe Paolo Hutz, Woods,
oui.
Et il vous a sollicité, Claude Bechtold, pour faire le voiturage,
oui.
Les amener, le chauffeur.
Voilà, le chauffeur jusqu'à Kaboul. Enfin, pas seulement le chauffeur, on se relayait en fait. Et comme on roulait 10 heures par jour, eh bien, on se passait le volant. Et moi, ça m'avait plu, cette balade jusqu'à Kaboul. Très, très safe, très agréable en fait. Et je pensais rentrer. Jusqu'à Kaboul, oui, bien sûr. Et à Kaboul, je pensais rentrer. C'est là que j'ai réalisé quelle était la situation sur place.
Alors, vous étiez à peu près une année après les attentats du 11 septembre.
On était en printemps 2002, donc c'était 6 mois.
Donc, il y avait la présence de l'armée américaine. Il y avait une situation sociologique et politique très particulière. Et vous êtes retrouvé dans ce contexte. Et vous avez réalisé à Kaboul, sur les traces d'Ella Maillard, qu'en fait, vous deviez rester plus longtemps dans ce pays.
Oui, là, il n'y avait pas que les Américains, il y avait vraiment le monde entier à Kaboul. Hein. Il y avait
des ONG.
Il y avait des dizaines de milliers de personnels d'ONG, il y avait les personnels de l'ONU, il y avait des militaires de 30 pays différents. Il n'y avait pas que les Américains, il y avait l'OTAN, tout l'OTAN était là-bas. Il y avait des alliés des États-Unis du monde entier. Donc c'était vraiment le centre du monde, Kaboul, pendant quelques mois. À part que quand on est sorti de Kaboul, alors étonnamment c'était le centre du monde, mais chacun avait ses avions en fait. Il n'y avait pas de compagnie d'aviation normale pour les touristes ou pour les covoitureurs que j'étais, comme je l'étais. Et donc tous les avions étaient entassés comme des mikados à l'aéroport de Kaboul.
Si on comprend bien de l'aviation militaire et non pas civile, c'est ça ?
C'est-à-dire que les ONG avaient leurs propres avions, le CICR avait ses avions, l'ONU avait ses avions, les militaires avaient leurs avions, mais pour moi, il n'y avait pas d'avion. Et donc, il fallait rentrer par la terre et sortir d'Afghanistan par la terre, c'est très, très, beaucoup plus compliqué que d'y rentrer, en fait. Évidemment, tout le monde voulait sortir. Et donc, c'était plus simple pour moi de rester avec Serge et Paolo. Je ne connaissais personne et je suis resté dans la voiture. C'était plus la voiture de Serge parce qu'on avait, fait un échange de voiture à Téhéran. À ce moment-là, on prenait des taxis de ville en ville. Et je suis monté dans la voiture avec Serge et Paolo sur la banquette arrière.
On vous voit sur la banquette arrière un peu trouillard, il faut le dire, caché sous la couverture. Alors qu'eux, ils sont totalement inconscients, une inconscience presque joyeuse et avec un enthousiasme communicatif. Alors que vous, on vous dit, il a conscience du danger qui règne autour de lui.
Oui, mais en réalité, on voit le film à travers mes yeux. Mais moi, je ne suis pas le bon référent pour analyser la situation. Le bon référent, c'est Serge. Paolo n'a peur de rien. Lui, il est peut-être brûlé. Il est même pas mal tête brûlée. Serge, c'est le raisonnable. C'est celui qui a l'expérience du voyage. Ça fait 20 ans qu'il fait ce métier. Il est déjà reconnu dans la profession. Et moi, j'ai peur de tout. Mais moi, j'ai trop peur. J'arrive pas à voir ce pays puisque j'en ai peur en fait, ce qui est une grave erreur du voyageur. Et Paolo, il a pas assez peur du danger et donc il a aussi un problème par rapport à ça. Donc moi je suis trouillard, mais la réalité c'est que, et ça je l'ai constaté au bout de quelques semaines de voyage, on était en sécurité parce que c'était un moment assez particulier en Afghanistan en 2002. Les Afghans regardaient ce changement d'un air joyeux en fait. Ils croyaient à cette promesse de l'Occident, que l'Occident allait les sauver. Il y avait un côté messianique à cette intervention occidentale. De ce point de vue-là, elle était très protestante en fait. On allait vraiment sauver l'Afghanistan. Les seuls qui n'étaient pas là pour sauver l'Afghanistan, c'était Serge et Paolo qui faisaient leur enquête dans le pays et puis moi qui était là par hasard. Mais tout le monde avait vraiment une mission dans ce pays. Reconstruire, ramener un cheptel de chèvres ou d'ânes, replanter des arbres, déminer le pays. Et moi, je suis au milieu de ça, puis je suis le vilain petit canard. C'est-à-dire que je ne sers à rien là-dedans, au milieu. Je ne suis pas du tout... Je coche pas les cases. C'est pour ça que Serge me dit d'acheter une caméra vidéo, parce qu'au moins, j'aurai l'air de quelqu'un qui coche les cases.
Il y a un petit appareil photo qui passait pour un rasoir.
Voilà, c'est le petit Miu 2. C'était vraiment l'appareil qu'on utilise. C'est un appareil de voyage, en fait, de touriste. Mais il n'y avait pas de touristes en Afghanistan à ce moment-là. Tout le monde avait des gros appareils professionnels, tout le monde était professionnel en fait. Il n'y avait que des professionnels occidentaux. Et nous, quand on sort de Kaboul, où c'est une fourmilière internationale, où il y a vraiment des centaines de milliers d'occidentaux qui sont là, on sort de Kaboul et tout d'un coup, on ne voit plus un seul occidental pendant un mois. C'est-à-dire que dans les campagnes, on n'a croisé aucun occidental. Et c'était dingue. Enfin, c'était fantasmagorique, en fait, qu'il y ait une telle effervescence centralisée et l'avenir de ce pays qui se dessinait sur des PowerPoint et sur des schémas et des graphiques. Et dans la campagne, on n'a croisé personne. On n'a croisé aucun militaire, on n'a croisé aucun... On a vraiment découvert une campagne afghane qui sortait de 20 ans de cauchemar, qui sont les 10 ans de guerre contre les soviétiques, les 5 ans de guerre civile entre les chefs de guerre afghans et les 5 ans d'occupation talibane.
Et par contre, ce qu'on voit rapidement, même dans la capitale, mais après encore plus dans les campagnes, il y a une bienveillance, un accueil, un sourire constant. Les gens sont vraiment hospitaliers et ils ont un optimisme, malgré tout ce qu'ils ont vécu.
Bah, 2002, c'est le moment de l'optimisme, parce qu'ils pensent que c'est terminé. Alors que ça recommence, en fait, doucement mais sûrement. Ce que Serge et Paolo pointent quand ils font leur état des lieux de l'Afghanistan, c'est que l'opium qui avait été éradiqué par les talibans, en fait, reprend de plus belle. Les chefs de guerre qui avaient été chassés par les talibans reviennent dans leur fief et recommencent leur guerre d'influence, recommencent des petites guerres entre chefs de guerre pour contrôler du territoire et pour s'enrichir rapidement, pour se réarmer, alors que la coalition internationale veut désarmer le pays. Et les fouilles archéologiques sont pillées par ces seigneurs de guerre. Donc le pays prend tout de suite une mauvaise direction, en fait. Alors elle est un peu sensible en 2002 quand on y est. Quand on y retourne en 2003, elle est beaucoup plus forte. Et elle va s'accentuer jusqu'au retour des talibans.
Claude, je rebondis sur vos propos, deux mots en particulier. Vous avez parlé des mines d'une part et d'autre part des champs d'opium. C'est au détriment de l'agriculture. Donc tout est mis en œuvre pour que les gens soient exsangues au niveau de l'agriculture, au niveau des matières premières.
Alors, ce n'est pas une volonté, ce n'est pas une mise en œuvre. C'est simplement que... Après, bon, ça, c'est l'enquête de Serge et Paolo. Ce n'est pas ce que je raconte dans le film. Moi, je raconte l'histoire de mon voyage. Mm-hmm. Mais eux, ce qu'ils découvrent, c'est qu'en fait, il y a une telle aide internationale, il y a une telle déferlante de riz, de farine, que la farine ne vaut plus rien. Alors que les gens ont de quoi se nourrir, mais autrement, s'ils veulent faire du commerce, c'est beaucoup plus rentable d'en faire avec du pavot. Et les chefs de guerre comprennent ça très vite. Ils ont besoin de s'enrichir très rapidement pour reprendre leur fief. Et donc, ils relancent la culture du pavot à haute dose. Les poches talibanes font pareil, parce qu'elles veulent aussi se réarmer pour reprendre le pays. Et ça conduit l'Afghanistan à être un narco-État, en fait, entre guillemets, mais c'est ce que les analystes américains tirent comme conclusion après 20 ans de présence occidentale. Ça, c'est le travail de Serge et Paolo. C'est pas du tout mon travail. Moi, je sais pas ce que je vais faire. J'ai une caméra dans la main parce que Serge m'a dit « Fais semblant de filmer ». Enfin, fais pas semblant de filmer, filme vraiment, parce que si tu fais semblant de filmer, on va penser que t'es un faux caméraman. Or, les faux caméramans, c'est ceux qui amenaient les bombes dans les attentats, en fait.
Le commandant Massoud
a été tué par un faux groupe de journalistes qui étaient en fait des talibans qui avaient mis la bombe dans la caméra. Et donc, on exige là-bas que la caméra tourne. Tous les checkpoints, chaque fois qu'on va visiter, passe un sas de sécurité, il faut faire tourner la caméra. Et donc c'est principalement ces images-là, ces images un peu sombres et les images dans la voiture que j'ai filmées, parce que le reste du temps quand j'étais dehors, je photographiais en fait l'Afghanistan. J'avais pas besoin de me donner de la contenance, j'avais pas besoin de faire semblant d'être un journaliste. Je faisais mon travail qui était de capturer l'image les couleurs de l'Afghanistan et ces personnages qui sortaient de leur village et qui venaient vers moi pour se faire photographier. Il y avait une espèce d'envie de se faire photographier après 20 ans de silence, en fait. Tout d'un coup, ce pays avait envie d'exister. Et donc, moi, j'avais des moudjahidines qui venaient me voir pour se faire prendre le portrait.
Des enfants,
mais de beaucoup d'adultes, en fait. Et même des policiers. Je me suis fait arrêter à Mazar-e-Sharif. Et quand je suis arrivé dans le petit poste de police, eh bien, ils m'ont dit « Maintenant, vous me faites tirer le portrait ». Et puis ensuite, j'ai pu partir. Enfin, c'était extraordinaire comme instant. Moi, sur le moment, je n'ai pas réalisé que c'était extraordinaire, ce moment. J'ai mis du temps à le comprendre. Parce que ensuite, la situation s'est dégradée assez rapidement. L'Occident a été vu comme un envahisseur assez rapidement. Les talibans ont repris de la sympathie dans le pays. Parce qu'évidemment, quand on arrive avec 150 000 hommes et des avions de chasse qui bombardent, qui se trompent, qui pensent bombarder des talibans, mais qui bombardent un mariage, qui font 150 morts dans un village, ça n'attire pas la sympathie. Et les ONG sont de plus en plus retranchées, les militaires retranchés dans leur camp. Et je pense que voilà, le mariage entre l'Occident et l'Afghanistan a commencé à se déliter à ce moment-là, en fait.
Claude, justement, on va revenir à votre regard que vous portez pendant tout ce film. Ça a été aussi une sorte de chemin initiatique. On comprend que vous avez perdu jeune vos parents et que tout d'un coup, la 42e semaine, vous me parlez de cette expérience assez étrange. Il y a un moment onirique dans le film. On comprend que vous avez pu en fait vous réconcilier avec les vivants.
Oui, après, tous les voyages sont, sont initiatiques, les voyages forment la jeunesse. Dans un voyage comme ça, qui était extrêmement intense, parce que je suis avec deux journalistes qui ne sont pas là pour s'amuser. Donc on se lève à 6h du matin, on se couche à minuit, et à partir de 6h15 du matin, les interviews commencent. Avec Serge, pas question de perdre du temps au petit déjeuner, ou à flâner, ou à s'arrêter et regarder le soleil se coucher. Oui, c'est vraiment un protestant genevois, ce qui est une qualité et un défaut, c'est-à-dire que vraiment il est là pour travailler. Quoi. Et il est freelance, donc en fait, voilà, il gagne ce qu'il produit. Enfin, voilà. Et Paolo, c'est le même modèle, mais version hollandaise, enfin canado-hollandaise, grandi à Florence, donc il y a quelques variantes. Mais c'est aussi un bourreau de travail. Et donc, on est épuisé et on passe un mois à c'est très intense en fait. Serge et Paolo, ils récoltent les histoires des petites gens, des personnages importants les intéressent peu, ils doivent les interviewer parce que c'est important pour le tour de presse. Mais en réalité, les vraies infos, ils les attrapent au début. Quand on va voir un chef de guerre, eh bien c'est celui qui s'occupe des toilettes qui est le plus important. Puis ensuite, c'est le sous-secrétaire qui nous apprend des choses. Et c'est ces détails qui font que finalement, quand on arrive au rendez-vous avec le chef de guerre, on sait déjà en fait ce qu'on voulait savoir. Et d'ailleurs, on n'apprend jamais rien. C'est de la langue de bois à haut niveau, les chefs de guerre en Afghanistan.
Oui, là, justement, il y a deux moments avec des représentants importants du gouvernement en place, dans les régions où vous êtes, il y a un commandant et un, si je ne me trompe pas, un autre chef de guerre, mais ça tourne un peu au flop.
Ça tourne pas au flop. C'est Attaï d'Ostom. Oui. Donc, c'est, si vous voulez, c'est les deux grands partis du Nord, c'est-à-dire le Jumbesh, c'est le parti ouzbek, c'est d'Ostom, qui est ce général qu'on connaît depuis longtemps parce que c'est un général qui était du côté du gouvernement socialiste défendu par les soviétiques et qui a retourné sa veste au dernier moment et qui ensuite s'est allié à Massoud contre les talibans. Et Massoud, c'est l'Alliance du Nord, c'est les Tadjiks, c'est le Jamiat. Et donc ces deux partis reviennent dans la course. Puisque les talibans sont partis, mais il y a une guerre de territoire très rapidement parce que qui aura le plus de territoire pourra planter plus d'opium et s'enrichira plus vite et donc pourra prendre le pouvoir. Et donc tout d'un coup, ces deux partis qui avaient été alliés se font la guerre. Et donc on découvre ça par on apprend au bazar qu'une famille entière a été assassinée. Et c'est un règlement de compte entre petits chefs locaux parce qu'il y a toujours un grand chef et ensuite des petits chefs qui se font acheter par les grands chefs. Et bref, c'est un règlement de compte. Et évidemment, ce n'est pas le petit chef qui est mort, mais c'est toute sa famille. C'est un grand classique en Afghanistan. La vengeance, c'est toujours des femmes et des enfants qui payent. C'est rencontré plusieurs fois en Afghanistan. C'est très étonnant, mais le chef en question s'en tire toujours très bien. Mais par contre, toute sa famille y passe. Et donc, Serge, il veut faire l'enquête, il veut savoir ce qui va se passer, il veut savoir si ça va remonter jusqu'à Kaboul, si les Occidentaux vont faire quelque chose, si le crime va être puni, s'il va y avoir une enquête. Et donc tout ça nous conduit à Attaï d'Ostom. Et finalement, on se rend compte que c'est le Jumbesh qui a fait les exactions, c'est le Jumbesh de d'Ostom qui a commis cet attentat. Et donc, à la fin de cette enquête, lui, il va demander... Et pendant l'enquête, on se rend compte qu'en fait, le policier qui est là, le super flic qui est envoyé de Kaboul, n'a aucun pouvoir, n'y arrive pas. Ça, on n'a pas mis dans le film, mais... Et donc, d'Ostom, c'est le responsable. Et quand Serge arrive jusque chez d'Ostom, on sait que l'interview ne va pas durer longtemps parce que d'Ostom déterre les journalistes. On sait qu'il ne va rien nous dire d'intéressant. On sait que c'est un type qui est sous la villa dans laquelle on fait l'interview. On sait qu'il y a une salle de torture. On sait qu'il a, il a fait crever des prisonniers talibans dans les containers en les laissant en plein désert. Enfin, on sait que c'est un type extrêmement dangereux. Et qu'en fait, il ne va pas être inquiété pour ses crimes. Et donc, Serge le confronte à ses crimes. Et lui dit, bah, vous reconnaissez ou pas? C'est très simple. Il y a plusieurs interviews. On peut être sympa pour essayer d'obtenir des interventions, des informations, ou bien on peut directement poser la question frontale. Et Serge, en fait, c'est assez marrant, mais il peut être très frontal avec les puissants, en fait. Il est très doux avec les petites gens. Et alors, pas toujours, mais là, il était frontal. Et il l'a fait, d'ailleurs, en Égypte, après la reprise du pouvoir par l'armée égyptienne, en fait. Et en Égypte, il a risqué beaucoup plus gros. Là, je pense qu'on ne risquait pas si gros parce qu'il y avait quand même, on était quand même des Occidentaux et Kaboul était tenu par les Occidentaux. Et donc, on était un peu sous la protection, peut-être. Mais enfin, bref, l'interview tourne court et on se fait virer de Yellowstone. Et après, on sort vite de son territoire.
Claude, c'est la question qu'on se pose quand on voit le film. Même s'il y a toujours de l'humour et beaucoup d'autodérision, on se dit, quels ont été les moments où vous avez eu peur, vous aviez envie de quitter cet équipage, ou vous avez craint pour votre vie, peut-être?
Mais moi, je pense qu'en fait, on ne parle pas de la même peur, en fait. La peur des mines, ça vous protège. Moi, je suis quelqu'un de peureux, et donc, j'ai peur de l'Afghanistan, je ne le connais pas, je vois des armes, moi, je suis antimilitariste, enfin, bref. J'ai peur, j'ai jamais voyagé comme ça. Eux, ils ont l'expérience, Serge a l'expérience du voyage, il n'a pas peur, il a confiance. La peur, c'est pas en fonction d'un danger, en fait, en réalité. Bien sûr, on a peur d'un chien méchant ou d'un fusil quand il est pointé sur nous, mais c'est la peur de tout, en fait. Y a des gens qui ont peur de tout. Et en Suisse, moi, j'avais peur de tout. J'avais peur de l'avenir, j'avais peur de mon deuxième pilier, de mon troisième pilier, de ce que j'allais faire dans la vie, de mon assurance pour les assurances. Enfin bref, l'angoisse de l'avenir, le fait de ne pas réussir à laisser partir le passé, le fait de ne pas avoir confiance en soi, c'est ça la peur.
Ça vient de votre histoire.
Ça vient, j'en sais rien, ça vient de je sais aucune idée d'où ça vient, mais ne pas avoir confiance dans l'avenir et ne pas arriver à lâcher prise. Je pense que c'est un truc très protestant de ne pas réussir à se mettre dans les mains de quelqu'un et en disant « advienne que pourra, faisons confiance au pays ». Moi, je n'ai pas réussi à le faire tout de suite, j'ai mis du temps à le faire. Or, c'est ça le voyage. Le voyage, on n'arrive jamais en position de force. On se met toujours dans les bras de quelqu'un. On fait toujours confiance. Pardon. On ne peut pas, même les voyages organisés, enfin, vouloir contrôler un voyage, vouloir le maîtriser, c'est une absurdité. C'est-à-dire qu'on perd tout du voyage. C'est l'imprévu du voyage, c'est l'inconnu qui fait que c'est un voyage, en fait.
Qui permet les rencontres.
Mais oui, sinon, c'est une animation du dimanche. Donc, moi, j'avais peur de tout, j'avais peur de... Et donc, j'étais bloqué dans le présent et dans le passé. Moi, j'étais quelqu'un du passé, en fait. Et je n'arrivais pas à concevoir mon avenir. Je voyais un avenir bouché et un avenir négatif. Enfin, je voyais que des problèmes et je
pas de solution.
Oui, et Paolo, c'est le contraire, c'est un type qui voyait que des solutions. Alors, lui, c'est dans l'autre sens, c'est bi-positive, il s'est fait tatouer ce B+, parce que c'est le motus, le leitmotiv de sa famille. C'est bi-positif, pense positif et tout ira bien.
C'est auprès des filles, d'ailleurs.
Voilà, Paolo, lui, il n'avait pas de problème à adresser la parole à des filles, alors que Serge et moi, on avait des discussions très protestantes, en fait. Dans la voiture, je me souviens, on a parlé de Meyenberg, alors... Nicolas Meyenberg, le grand journaliste suisse, je pense le plus grand journaliste suisse ever, extraordinaire, qui est d'ailleurs trop peu méconnu en Suisse romande. Serge, au début, quand on est parti de Vevey, je lui dis « Ah, mais tu sais quoi le journalisme ?» Moi, je ne connaissais pas le journalisme. Et puis, il me dit « Ok, bah, lis tout Meyenberg. » Voilà. Puis tu auras un bon aperçu de ce que c'est, pour moi, le vrai journalisme. Et j'ai lu... J'ai acheté tout ce que j'ai trouvé en librairie sur Meyenberg, j'ai tout lu. Et c'est extraordinaire, voilà.
Est-ce que pendant que vous étiez en Afghanistan, vous avez gardé à l'esprit l'Afghanistan qu'avait connu Ella Maillard, puisque vous avez connu les mêmes régions qu'elle a traversées,
oui.
Mais à une autre époque, totalement différente, l'époque, en fait, du royaume.
Moi, j'avais jamais rien lu sur l'Afghanistan. J'avais pas lu Bouvier. J'avais pas lu El Amayar. J'avais lu El Amayar, mais en Asie centrale. C'était là que je voulais aller, en fait, moi, à l'époque. C'était les steppes et les steppes d'Asie centrale, mais pas l'Afghanistan en particulier. Donc, ma mère, elle m'avait offert des livres de El Amayar, mais qui étaient plus à l'est. Et j'ai découvert sur place que c'était la route qu'elle avait prise dans La Voie cruelle avec Anne-Marie Schwarzenbach. Serge, évidemment, il avait tout lu, il savait très bien. Mais c'est vrai que c'est la même route, en fait. J'ai reconnu, après, j'ai retrouvé des endroits sur le... D'ailleurs, la Darieh Boum, elle traverse cette rivière, ce village, et elle en parle dans La Voie cruelle. C'est sa porte d'entrée de l'Afghanistan. Ah, voilà, c'est l'UAP, excusez-moi.
Oui.
Oui, allô ?
Nous reprenons, il y a eu une petite interruption.
Ah oui, c'est mes enfants parce que...
Ben oui, paternelle,
voilà, on n'est plus dans les années 60.
Voilà, donc il y a la parité.
C'est ma femme qui travaille, ouais. Et c'est ma femme qui fait le boulot sérieux, en fait. Moi, voilà. Je fais juste du cinéma.
Et puis, vous occupez des enfants.
Voilà, c'est un grand classique dans River Boom. On s'est tous mis avec des femmes extraordinaires. Qui sont super, qui nous soutiennent avec admiration et abnégation, mais c'est pas nos groupies. Elles ont un vrai job. Elles font des boulots sérieux.
En fait, c'est plus que la parité là. Vous êtes des maris féministes.
On a toujours un peu. Alors, moi j'ai toujours été féministe, mais après tout le monde qu'on s'entende sur le terme. Après, il y a mille définitions. Moi, ma mère était féministe, donc elle m'a fabriqué comme ça. Donc c'était clair que c'est elle qui conduisait la voiture. Et puis je me suis rendu compte que j'étais un mec, je pense, vers 15 ans. Parce qu'avant, si ça va bien. Par contre, je vais garder le verre parce que je vais boire un peu d'eau. Ouais. Non, mais moi ça me fait marrer parce qu'on essaie de... Moi, j'ai toujours pensé que je m'associerais avec des filles. Moi, j'ai toujours été dans un milieu féminin. Mon père, c'était un avocat de gauche, mais il était à Lausanne. Nous, on vivait à la campagne avec ma mère, qui était une féministe allemande et qui nous a éduqués, qui avait deux mecs, deux garçons à la maison. Mais nous, on faisait des manifs antimilitaristes à 5 ans, on allait à des défilés militaires au Tessin. Les gens nous crachaient dessus, parce que l'armée, c'était intouchable à l'époque. Et il y avait, la manif, c'était ma mère, une copine de ma mère, mon frère et moi. Et nous, on était comme ça, puis nous, on admirait les uniformes. Évidemment, l'armée, les petits garçons, ils adorent l'armée. Et puis, les officiers venaient nous faire la morale à ma mère, en lui expliquant ce que c'était que la guerre, elle qui avait connu la Deuxième Guerre mondiale du côté allemand. Elle avait grandi en Allemagne elle savait ce que c'était la guerre. Et puis il faisait la morale, et puis elle était stoïque comme ça, elle était extraordinaire, ma mère. Et puis voilà, donc après moi quand elle est morte, j'avais 25 ans et j'étais devenu un mec, en fait. Et donc je me suis retrouvé toujours à me justifier, parce que dire oui, mais en fait c'est comme un renard qui a été éduqué avec des loups, et puis après tout d'un coup il grand, puis c'est quand même un renard. Enfin, moi j'étais tout d'un coup, on disait ouais, mais tu dis ça parce que t'es un mec, et puis je disais ouais, en fait j'ai plutôt été fabriqué comme une fille, en fait, mais comme une fille féministe, donc pas soumise, voilà. Et donc voilà, et puis finalement je me suis retrouvé dans la bagnole avec deux mecs qui étaient un peu comme moi, en fait, c'est-à-dire de leur mère féministe et protestant, trois mecs blancs, le même âge, dans la même bague de la bagnole, quoi.
Mais cette complicité, c'était... quand même. On sent une complicité.
Ouais, mais elle vient pas de ce qui nous rapproche, elle vient de ce qui nous sépare. Vraiment. Je pense que c'est pas du tout, en fait. D'abord, on s'entendait pas au début. D'abord, parce que Paolo était photographe, il était furieux qu'il y ait un deuxième photographe. Furax.
Qui en plus a une carte de presse à Kaboul.
Ouais, j'avais une fausse. Non, mais c'est mais tout le monde avait des fausses cartes de presse.
Ah, bon, hein, tout le monde. Ils s'obtiennent ces cartes de presse en 10 minutes. Non, alors qu'ici, il faut 2 ans.
On imprime des cartes de presse, mais tous les freelance avaient des fausses cartes de presse, parce que les freelance, on n'a pas de carte de presse, en fait. Et de toute façon, c'est le pays où tout le monde faisait semblant. Les talibans faisaient semblant d'être pas des talibans. Moi, je faisais semblant d'être un caméraman, j'en étais pas un. Les seigneurs de guerre faisaient semblant d'être des hommes de paix, ils faisaient la guerre. Enfin, c'était un jeu du poker menteur, l'Afghanistan, et c'était assez extraordinaire pour ça. Mais je me retrouve avec ces deux gars dans la voiture. Serge, qui veut, c'est absolument ce qu'il veut faire. Il a une immense culture. Donc à 12 ans, il lit déjà Albert Londres. Il lit Jack London. Enfin, il a une culture littéraire immense. Paolo, qui sort de cours d'histoire de l'art, il avait son propre labo de photos. Il développait des photos pour des grands photographes à Florence. Il photographiait Jade Baker, qui vivait à Florence à l'époque. Donc, ce mec avait une culture immense. Et puis moi, j'arrive là. Et mon background, c'est en gros, c'est Yacari, que j'admire, c'est qui est une grande, qui est vachement bien. Yacari et les Rondo Veneziano. Donc, si vous voulez,
d'où le fait qu'on les entend dans le film.
Ah, bah oui, j'ai mis les. Alors, évidemment, c'est le grand retour des Rondo Veneziano.
Qui faisait un carton dans les années 80.
Chez moi, mais moi, je viens
chez moi aussi.
Dans mon village, c'était pas le cas. Moi, dans mon village, les enfants d'immigration italienne, ils écoutaient tous du jazz. Mes copains qui vivaient dans des fermes, ils écoutaient du Led Zeppelin. Et moi j'avais une piscine et j'étais fils d'avocat et j'écoutais du Rondo Veneziano. Comme quoi la culture musicale, comment dire, on l'a choisie. Et moi j'avais choisi, hélas, les Rondo Veneziano et les Poppies. Donc, si vous voulez, moi j'étais une grande inculture. Moi, quand je parlais à Paolo, je disais: ah, mais toi tu veux faire du reportage de guerre comme Frank Capa. Et puis il s'est bien moqué de moi parce qu'au bout d'un moment il m'a dit: tu sais, ça fait 6 mois que tu dis Frank Capa, mais c'est Robert Capa, Claude, en fait, tu vois. Frank Capa, c'est un écrivain. Et voilà, si vous voulez, moi j'avais une culture de bande dessinée et de cinéma, mais le reste, je touchais pas le POC. C'est pour ça que, en fait, en photographie, j'ai toujours été très libre, en fait. Je me suis retrouvé très libre dans ce monde de la photographie. Et comme moi, j'ai jamais fait d'école de cinéma, je suis très libre dans le monde du cinéma. Et d'autant plus libre que c'est un documentaire cinéma. Et c'est un genre qui m'est tombé dessus parce que, en fait, mon producteur m'a dit: moi, je peux faire ton film, mais ce sera un documentaire cinéma. Et moi, j'ai aucune connaissance du doc cinéma. À part temps présent, alors peut-être qu'en Suisse on a un peu de ce que c'est,
de
tradition de documentaire, mais moi c'est pas du tout des films qui m'attirent, à part peut-être le film de Callisto McNulty, la petite fille de Carole Roussopoulos, son film extraordinaire sur les archives de sa grand-mère qui s'appelle Insoumuse. Ça, c'est des films qui me font plaisir et qui me donnent des clés de compréhension de comment raconter une histoire. Mais donc dans ce monde du documentaire qui n'est pas le mien, je me sens très libre, en fait. Et donc je pense qu'avec tout, après tout ce temps, c'est vraiment le moment idéal pour moi de rentrer dans le monde merveilleux du cinéma.
Justement, mais il y a un côté, on comprend vos influences, dont la culture bédéiste. Et au début, ça me fait penser à la mise en scène, avec la façon de mettre en image et d'amener le récit. Ça me rappelle certaines planches, par exemple des romans graphiques des années 60 ou certains clins d'œil à Tarantino. C'est possible, ça aussi, comme influence?
La première scène, c'est... Mais en fait, je ne l'ai pas mise en scène, j'ai pas copié Tarantino. Oui. C'est que je filmais Serge et Paolo et je me suis rendu compte que j'étais dans une scène de Tarantino. Et c'est cette scène-là qui commence le film qui m'a donné la confiance de faire le film. C'est que j'avais mon ton.
Et c'est le souffle, c'était ça. L'énergie du film.
Voilà, c'est-à-dire que j'avais deux mecs qui s'engueulaient habillés en afghan sur des frais, sur de la comptabilité, alors qu'on traversait certainement
deux
l'endroit.
Mecs occidentaux.
Oui. Cela dit, entre un occidental et un afghan, on ne fait pas la différence. Hein, je veux dire, on est extrêmement semblables. Je m'en suis rendu compte quand on s'est habillé en afghan. Je m'en suis rendu compte de plusieurs manières. D'abord, tout le monde nous prenait pour des afghans. Et quand on est sorti du bazar, du magasin, je parlais avec Serge Parlo et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ce n'était pas Serge Parlo. Parce qu'en fait, on a tous la même gueule, en fait. Vraiment, et particulièrement en Afghanistan, en fait. L'Afghanistan, il y a des yeux bridés qui viennent du Tadjikistan, il y a des yeux bleus qui viennent de l'Ouzbékistan ex-soviétique, il y a les Pashtuns qui viennent du Pakistan indien, enfin, donc c'est un mélange de visages, de types de visages. En fait, tout le monde nous a pris pour des Afghans et c'est ce qui nous a sauvé la vie à la fin. En fait, le seul moment vraiment dangereux où j'ai plus peur, en fait, c'est celui-là. Parce qu'en fait, c'est vrai que on aurait pu mourir bêtement, en fait, comme ça, par un sniper, par un type, mais ou alors pendant la rivière, mais autrement, à tous les moments, on était chez des Afghans, et c'était la plupart du temps, on était en sécurité. Toujours, en fait. Chaque fois qu'on se mettait dans le salon de quelqu'un, même si c'était une petite frappe locale ou un bandit, ils nous ont protégés. En fait.
C'est la totalité de la région.
Ouais, je pense que l'Afghanistan, il y a quelque chose de spécial en Afghanistan, mais on le retrouve en Iran et dans beaucoup de pays. Mais l'Afghanistan, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé, qui a une histoire quand même assez particulière. Parce qu'il a...
C'est un carrefour de chemin.
Alors, oui, mais l'Iran aussi, tout est un carrefour, la Chine est un carrefour. Mais il n'y a pas de sentiment... En Afghanistan, on est considéré... Enfin, moi, j'avais cette impression qu'il n'y avait pas de hiérarchie, en fait. On était un voyageur, et donc on est respecté comme voyageur. Et on ne nous regardait ni de haut ni de bas, parce qu'on était Suisse et qu'eux étaient Afghans, en fait. Et c'est pas un ex-pays colonisé qui a souffert. Et donc, c'était un rapport assez égalitaire. Moi, j'aimais assez ce à la fois de la fierté et à la fois de la politesse. C'est-à-dire qu'on vous accepte, vous êtes là, mais on ne vous assaille pas de questions, en fait. De la manger, payer si vous êtes dans un restaurant, on vous l'offre si vous êtes invité chez des gens. Il y a une série de règles de politesse. On s'intéresse à vous, modérément. Ce qui est très agréable, en fait. Ce qui est vraiment... moi, j'ai jamais eu l'impression d'être... Alors, l'opération occidentale, ça, on peut se poser des questions. C'est s'il y a un côté messianique, on va sauver les Afghans. Mais en fait, nous, dans notre voyage, c'est plutôt l'Afghanistan qui nous sauvait, en réalité. Quand on arrivait dans un village avec notre taxi afghan défoncé et nos habits de... Alors, c'est les habits de Serge, qui était sa veste beige qu'il a dû garder pendant 15 ans, en fait. Je pense qu'il l'a encore, en réalité. Ils avaient de la condescendance pour nous. C'était jamais dans l'autre sens, la condescendance. C'est-à-dire qu'ils disaient « Waouh, vous devez être fatigué, hein. Allez, il faut que vous reposiez, allez, on va vous servir du thé. » Et c'était assez super, en fait. Et ça, je dois reconnaître à Serge et Paolo qu'ils ont ce... Surtout à Serge, en fait, qu'ils ont ce côté... On n'est pas... on écoute toutes les histoires, et ce qui nous intéresse, c'est l'histoire. Qu'elle soit suisse, chinoise, ouzbèque, russe ou américaine, elle nous intéresse, en fait. Et donc, il y a un rapport d'égal à égal. On est là pour écouter l'histoire. Et c'était assez fantastique.
Et la rivière Riverboom qui donne le titre du film ?
La rivière Boom, c'est là où le grand théâtre devient, où tous les masques tombent, parce que... Il y a une conjonction d'éléments qui fait que ça devient du grand guignol, en fait. C'est-à-dire que Serge et Paolo qui disent « Oui, mais il n'y a pas de problème, on a tout préparé, on a tout réfléchi, t'inquiète pas, on maîtrise. » Eh bien, tout ça tombe à l'eau, en fait, au sens propre du terme. C'est-à-dire que non seulement on n'arrive pas à traverser la rivière, mais on est coincé là. Non seulement on est coincé là, mais la voiture est dans la rivière, puisqu'elle est en crue. On ne sait pas si on va être emporté par les eaux en pleine nuit. On est à côté d'un chef de guerre, enfin d'un bandit, en fait. Il y a une voiture à côté de nous, c'est un bandit qui a volé un mouton dans notre village voisin. Donc on se dit, c'est vraiment un type pas sympa qui a pillé le village voisin. Si le village voisin décide de venir se venger, bah, ils vont nous descendre aussi. Peut-être dans la nuit, ils ne vont pas faire la différence. Ce voisin demande à notre chauffeur s'il ne peut pas nous descendre et puis piquer notre argent, puis balancer nos corps. Ça, il me l'avoue plus tard, Serge, il n'ose pas me le dire sur le moment.
Parce que lui, il parle farsi.
Oui, puis surtout, ils ont eu l'info par le chauffeur, et puis ils me l'ont pas dit pour pas que je panique, parce qu'ils me cachent des infos quand même pour pas que je pète un câble. Et puis, à un moment donné, et puis on nous a dit attention. Il y a des talibans dans cette région, c'est une zone, étonnamment, mais c'est pas une zone talibane, mais il y a des poches talibanes, des talibans qui se sont enfuis. Et puis il y a les rochers qui tombent de la falaise, en fait, il y a une sorte de truc. Puis à un moment donné, on dit, mais pourquoi est-ce que le voisin dort avec son mouton dans la voiture? C'est idiot. C'est peu de place, il avait une petite Jeep soviétique, c'est absurde, il est coincé dans son... Ils ont monté la voiture et il nous dit « Ah, mais ben, c'est normal parce qu'il y a des loups dehors !» Et là, on était dans la fable, en fait, on entre vraiment dans la fable. La panique atteint un tel degré chez moi qu'on entre dans la fable, en fait. Je me dis « Mais il y a trop d'informations, ça disjoncte, en fait, voilà. » Et moi, je passe cette nuit... dans les vapeurs de cannabis.
Ah, le cannabis,
parce que le chauffeur fumait du cannabis et nous traitait de mécréants, enfin bref, c'était très étrange, mais voilà. Et puis finalement on se réveille et le film raconte cette histoire, je vais pas tout dévoiler, mais c'était un moment fort parce que quand on est rentré, alors qu'on était des électrons libres, chacun travaillait, les journalistes sont pas des c'est pas des communistes, les journalistes, ils travaillent pas en équipe, c'est les solitaires c'est très rare d'avoir des couples de journalistes. Et les photographes, alors c'est vraiment les photographes de terrain, c'est les sauvages, en fait, vraiment. Ils se retrouvent une fois par mois au bar pour échanger leurs blessures et leurs cicatrices, mais vraiment, et d'ailleurs c'est des gens extraordinaires, moi je les ai trouvés très attachants, mais vraiment c'est les solitaires. Et là, quand on est rentré de ce voyage, on ne s'est plus quitté. C'est-à-dire qu'on avait trouvé notre équipe, alors qu'on n'est pas des émotifs. On ne s'est pas dit « Ah, on va être amis pour la vie ». Enfin, c'est les protestants qui parlent, donc on n'est pas dans les fusions. Beaucoup de pudeur, mais Serge et Paolo donc me disent avec pudeur « Nous allons nous associer, nous allons créer une SARL qui va nous lier légalement. Nous allons publier tous les livres dont on a rêvé et que les maisons d'édition ne voudront pas publier. »
Ça, c'est Cometa ?
Toutes tes photos... Non. C'est Riverboom.
Cometa,
Riverboom, ça a 20 ans. Et ils me disent « On va publier toutes tes photos, parce que mes photos, personne n'intéressait personne. Donc, on va les publier dans une collection de guides de voyage. On va faire le premier guide de voyage d'Afghanistan. Et on va appeler cette maison d'édition Riverboom. » Et moi, si c'est vrai, moi j'avais encore réalisé que c'était le moment le plus important du voyage, en fait. Pour eux, ça l'était, c'était assez évident.
Et à propos de ces images que vous avez retrouvées, donc 20 ans après, quel était l'état des cassettes ? Est-ce que le grain avait un peu souffert ?
Non. Et mes films, mes pellicules, je les achetais sur place, c'est des Konica iraniennes qui avaient fait le tour du pays, qui étaient arrivées par le Pakistan et qui étaient périmées de date depuis 10 ans. Donc, et pas gardé dans les frigos en Afghanistan, je peux vous dire. Mes cassettes vidéo, DV, alors ça, on les a pris brutes telles quelles. Il y a eu une petite colorimétrie d'amélioration, mais on n'a rien changé à la qualité de base, ni au son. Le son, il y avait un mixage, Mazé qui a fait un super mixage, mais en fait, le son était parfaitement audible. C'était le matériel minimum, c'était une mini DV, avec un petit micro sur la caméra. Il fallait juste penser à allumer le micro, puis à l'éteindre, parce que sinon la pile s'use, en fait, et c'est très perturbant, parce qu'il faut toujours penser à mettre sur on le micro. Et des cassettes, suffisamment de cassettes à mettre dedans. Mais au début, mes producteurs se demandaient si la qualité de l'image, il faut que j'y aille.
Oui, non,
je fallait être bonne, je suis désolé, mais on peut continuer au téléphone. Mais merde, c'est un direct, il faut que je couvre. Je suis désolé.
Alors, au revoir, Claude, merci.
Mais par contre, j'ai oublié l'heure. Mais je vous réponds.